Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Vincent Parisot.
Elle est la petite sœur d'M6, mais elle ne s'en laisse pas compter. La preuve, avec des audiences records pour elle ces dernières semaines grâce au football, à l'Europa League, mais aussi grâce à ses piliers d'audience du début de soirée, ses magazines Enquête criminelle et Enquête d'action. Il s'agit, vous l'avez reconnu, de la chaîne W9. Quel bilan pour cette saison? Quels objectifs pour la prochaine? Jérôme Foucré, le patron des chaînes W9 et Sister du groupe M6, propriétaire d'RTL, sera avec nous dans quelques minutes. Et puis, dans un quart d'heure, ce sera notre débat. Bonsoir Benjamin Meffre de Pure Média.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
On va parler de l'avenir de l'audiovisuel public.
Oui, on va se pencher plus précisément sur la grande réforme de l'audiovisuel public qu'a dévoilé le gouvernement cette semaine. Alors si ce n'est pas le grand Big Bang qu'on avait annoncé, elle contient malgré tout quelques mesures fortes, comme la fin de France 4 en Herdien ou le rapprochement de France 3 et France Bleu. Et puis surtout, la grande question du montant des économies à réaliser. Sur ce sujet, le gouvernement est resté très flou. On essaiera d'y voir plus clair avec Cyril Lacarrière du journal L'Opinion.
Mais d'abord, l'actu média de la semaine. Une saison et pas plus pour Thomas Soto, à la tête et à la présentation de Complément d'enquête sur France 2. Il a annoncé lui-même à ses équipes qu'il ne sera plus là la saison prochaine. Mais il devrait rester dans le giron de France 2. Il est notamment le joker de Laurent Delahousse pour le 20h du week-end et d'autres propositions pourraient lui être faites. France 4 sur la voie de garage, on va en parler tout à l'heure dans le débat, mais le sort de la chaîne Jeunesse, qui se retrouvera uniquement sur Internet, fait sortir Jack Lang de ses gonds. L'ancien ministre de la Culture a écrit à Françoise Nyssen pour lui dire qu'un quart des enfants, et notamment les plus défavorisés, n'ont que France 4 comme programme dédié, gratuit et sans pub. Le risque, écrit-il, c'est de les jeter dans les bras d'Internet et des grands réseaux américains pour les exposer à la pub ciblée. Et puis cette semaine a été remis le prix Philippe Chaffanjon 2018. Depuis la disparition de ce grand professionnel de la radio, passé par RTL et par Radio France, ce prix récompense des reportages audacieux et singuliers. Alors le prix du reportage France est revenu à Stéphanie Trouillard pour « Si je reviens un jour ». Une enquête autour de lettres d'une élève juive à sa prof de lycée juste avant sa déportation à Auschwitz. Un reportage publié sur le site de France 24.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Vincent Parisot.
Invité des dessous de l'écran avec Benjamin Meffre de Pure Média, nous recevons le patron des chaînes W9 et Sister du groupe M6, Jérôme Foucré. Bonsoir Jérôme Foucré.
Bonsoir Vincent.
Tout d'abord, quel bilan, puisqu'on arrive en fin de saison, comme on dit, quel bilan vous tirez de cette saison qui s'achève pour W9 tout d'abord?
Bah écoutez, le bilan est bon. W9 va faire sa meilleure saison depuis 5 ans. Et c'est assez spectaculaire parce que c'est l'une des seules chaînes à progresser dans cet univers de la TNT qui est difficile, qui est très concurrentiel, et on est en train de continuer à progresser. Donc alors, un bon bilan.
Vous êtes actuellement troisième chaîne de la TNT, si je ne dis pas de bêtises, derrière TMC et C8 qui se passent devant régulièrement. Est-ce que votre objectif la saison prochaine, c'est d'aller leur mordre les mollets, les rattraper?
Alors on a un objectif important sur W9, c'est d'être le plus performant possible sur les moins de 50 ans. Donc le classement est un peu différent parce que là on fait presque la course en tête, on est au coude à coude avec TMC. Et puis surtout on est numéro un le soir, donc tous les grands programmes que nous proposons et qui marchent bien font que nous sommes devant ces deux concurrents que vous citez, donc on a l'objectif de continuer à être aussi performant.
Mais ce que vous nous dites aussi, c'est on ne vise pas les mêmes publics, donc on n'est pas forcément en concurrence frontale avec C8 ou avec TMC?
Alors, c'est quand même ça l'univers de concurrence de W9. Donc il y a plusieurs critères de performance. Et le critère le plus important, c'est la performance sur la cible commerciale, puisque W9 vit de la publicité, comme M6, comme Sister. Donc il faut être bon sur les moins de 50 ans. Et sur ce critère-là, nous sommes très bons.
Alors parlons de ce qu'on appelle le prime time, avec évidemment cette saison, et c'était il y a quelques semaines, vos audiences boostées par le foot avec la Ligue Europa, notamment Marseille, évidemment avec les demi-finales. Pas trop triste d'ailleurs que votre grande sœur M6 vous ait chippé la finale entre Marseille et l'Atlético le 16 mai?
Oh, il y avait une logique dans le fait de faire cette énorme finale avec Marseille sur une chaîne encore plus importante que W9, notre grande sœur M6, et ça a permis à l'événement d'avoir un rayonnement encore plus important. Donc voilà, c'était tout à fait logique.
Mais avec Marseille, vous avez fait jusqu'à, je crois, presque 9% de part de marché, de part d'audience.
9% de part d'audience, ça c'était sur la journée. Ouais. Et on a fait 4,7 millions, ce qui est le meilleur score de l'année, ce qui est un score exceptionnel pour une chaîne de la TNT, dont la moyenne des primes, c'est plutôt entre 800 000 et 1 million de téléspectateurs.
Ouais. Alors, mauvaise nouvelle, dès la rentrée prochaine, l'Europa League partira sur SFR. Est-ce que c'est un coup dur pour W9 ?
Oh non, c'est la vie de la télévision. Et c'est un mouvement, c'est un mouvement qui correspond au fait que les droits pour continuer à diffuser cette compétition étaient devenus trop chers pour la chaîne. Et donc on a choisi d'acheter d'autres droits. Je pense à l'équipe de France féminine de football, qui va commencer à être diffusée à partir de septembre sur W9, avec en point de mire la Coupe du Monde 2019 qui va se dérouler en France, donc ça va être un bel événement. Il y a aussi la Nations League, cette compétition qui prend la place des matchs de qualification qu'on connaissait avant. C'est une nouvelle compétition qui commence en septembre et on aura là des grands matchs avec de grandes équipes européennes sur W9. Et puis il y a une offre sport qui est complétée aussi par du basket. On aura du basket féminin fin septembre sur W9 dans l'hypothèse où la France atteint les demi-finales ou la finale du mondial de basket qui se déroule en Espagne. Voilà, donc il y a beaucoup de sports qui arrivent en 2018-2019 sur la chaîne.
Alors, l'un de vos points forts en soirée sur W9, ce sont les magazines qui tutoient régulièrement le million de téléspectateurs. Vous avez d'ailleurs deux piliers. Tout d'abord, Enquête criminelle avec Nathalie Renoux et Enquête d'action avec Marie-Ange Casalta. Ces deux rendez-vous reviennent la saison prochaine ?
Oui, bien sûr. Ce sont deux très grands points forts de la chaîne. Ils sont complétés par d'autres marques qui ont été lancées cette année. Je pense à État de choc, qui diffuse de grands documentaires étrangers. Il y a eu un carton récent là sur les prisons russes. Donc, ils diffusent de grands documentaires un peu choc, justement, présentés par Stéphanie Renouvin. Il y a les Veto aussi, Veto de choc, qui recommence à partir du mois de novembre. Et puis, minute par minute, je prends la peine de le dire parce que demain soir, lundi, il y a un magnifique documentaire qui sera diffusé sur W9, qui retrace avec les archives de l'époque ce qui s'est passé en 98 en France, au moment de la Coupe du Monde.
Comme vous le disiez, vous vous êtes aussi mis au documentaire, avec par exemple, mardi dernier, je crois, un documentaire sur l'affaire Johnny Hallyday. Est-ce que ça, c'est un des axes de développement de W9 la saison prochaine ?
Oui, absolument. C'est quelque chose qui connaît un grand succès. Il y a eu, on a diffusé des documentaires sur des catastrophes aériennes, par exemple. Il y a eu le Rio-Paris, il y a eu le MH370 qui ont eu de gros succès. Et puis dernièrement, il y a eu effectivement, la semaine dernière, le doc sur Johnny Hallyday, avec l'affaire de l'héritage, qui a rassemblé 1 million de téléspectateurs et qui a fait l'actualité d'ailleurs, puisqu'il y avait des révélations dans ce documentaire qui ont donné lieu ensuite à des débats publics. Et évidemment, on va poursuivre cette politique de documentaire événementiel sur des grandes affaires d'actualité.
En Access, vous misez toujours sur ce que vous appelez les séries réalités. Donc ce sont les Ch'tis, les Marseillais, les Princes de l'Amour, Moundir et les Aventuriers. Est-ce que vous allez continuer à miser sur ce genre ? Est-ce qu'il ne s'essouffle pas un peu ?
Écoutez, encore une fois, compte tenu des audiences, c'est un genre qui marche très bien, qui fait partie des grands piliers d'audience de la chaîne, qui nous permet d'être très puissants sur les jeunes. Qui nous permet aussi d'avoir une empreinte digitale, comme on dit, extrêmement forte. W9, c'est aussi 200 millions de vues chaque année, chaque saison, et grâce notamment à ces séries réalités. Donc, on a plutôt envie de continuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les marques que vous avez citées, il y a les Marseillais, il y a les Princes de l'Amour. Moundir, c'est un peu différent, c'est une série réalité d'aventure. Voilà, donc c'est une émission qui fait un petit pas de côté par rapport aux séries réalités habituelles, avec un ressort qui est différent, celui de l'aventure. Moi, je trouve que c'est une émission qui est extrêmement réussie et qui marche bien.
Vous dites, Jérôme Foucré, donc que les jeunes sont au rendez-vous pour ces émissions. Mais pourtant, quand on entend la ministre de la Culture lundi dernier expliquer que le service public, les chaînes du service public ne peuvent pas attraper les jeunes parce que les jeunes sont sur Internet, les jeunes regardent sur Internet, là c'est finalement un démenti que vous apportez à la ministre, non ?
Encore faut-il qu'on fasse des programmes qui puissent éventuellement les divertir, ce qu'on propose avec ces feuilletons, mais c'est vrai que ces feuilletons sont un élément important pour faire résonner la marque W9 et les contenus W9 sur Internet. Vous savez que sur les écrans autres que l'écran de télévision, W9 en 2017 a réuni 99 des 100 meilleures audiences de l'ensemble de la télévision. C'est une performance extraordinaire et ça montre que W9 est parfaitement configuré, j'ai envie de dire, mieux configuré que les autres même, pour attraper les nouveaux usages et répondre justement à cette évolution qui va vers le téléphone, qui va vers les nouveaux écrans.
Est-ce que vous avez prévu de nouvelles déclinaisons de ces séries réalité ? On avait parlé à un moment de décliner les Ch'tis avec l'écorce. Est-ce que c'est toujours dans les cartons, ce projet ?
Non, pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, on s'en tient aux franchises qui existent, tout simplement parce qu'elles marchent bien et qu'elles méritent d'être conduites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveautés. Il y aura des nouveautés dans les feuilletons qui arrivent la saison prochaine, ne serait-ce que parce que les destinations, les personnages, les mécaniques vont légèrement évoluer. C'est très important, d'ailleurs, ça fait partie du succès de ces émissions, d'arriver à apporter par petites touches des nouveautés qui rendent ces feuilletons toujours aussi attractifs, toujours aussi amusants, divertissants.
Alors, parlons aussi de celles et ceux qui incarneront W9 à la rentrée. C'est vrai que ça a été un des premiers événements, j'allais dire, du Mercato. On a appris l'arrivée de Julien Courbet, notre ami d'RTL, sur M6, alors qu'il officiait jusqu'à présent sur C8. Et on a cru comprendre qu'il allait aussi pouvoir animer des programmes sur W9. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
C'est un peu tôt pour vous en dire plus, mais on est évidemment très très heureux d'accueillir Julien. Julien, on le connaît depuis très longtemps. On l'aime depuis très longtemps, y compris les émissions qu'il fait sur RTL que nous connaissons et que nous aimons. Donc il y a une envie de faire des choses ensemble. Il y a des projets concrets qui vont être annoncés, je pense, bientôt, voilà, et qui concernent les deux chaînes. Après, il y a d'autres visages nouveaux qui vont arriver sur W9 l'année prochaine. Je vais vous en donner un. C'est Issa Doumbia qui va animer de nouveaux divertissements à partir de septembre sur W9. Voilà. Et il participera aussi d'ailleurs à une émission d'aventure que nous avons tournée cette année au Panama. Il y a Issa Doumbia et Jean-Pascal Lacoste qui ont été jetés, si j'ose dire, au cœur du Panama.
Alors Jean-Pascal Lacoste, on va dire, c'est le Jean-Pascal, pour ceux qui ont un peu de mémoire, de la Starac. C'était l'agitateur de la Starac. Ouais,
absolument, c'est un personnage extrêmement sympathique, très populaire, et qui va vivre cette aventure avec Issa à la rentrée sur W9 dans cette nouvelle émission.
On annonce aussi l'arrivée de Bertrand Chameroy sur W9. Est-ce que vous la confirmez ?
Alors l'arrivée de Bertrand Chameroy sur W9, ça c'était en 2016-2017.
Alors le retour, voilà, si
aujourd'hui il n'y a pas de, il y a pas de, bah, alors si, il y a pas de nouvelle émission.
Mais il y a des rumeurs.
Il y a parce pas que de nouvelle émission vous qui savez, est prévue à ce stade.
Il y a des rumeurs, il y a même une rumeur selon laquelle il pourrait officier à la tête d'une émission média qui s'appellerait Balance ton poste, face évidemment à la concurrence de Cyril Hanouna.
Ça, si le projet existe, peut-être. Que ce prochain arrive sur W9, c'est peu probable.
Ah bah, d'accord. Ça mérite d'être clair, en tout cas.
Un petit mot sur Sister, l'autre chaîne que vous dirigez. Comment va-t-elle ?
Alors, Sister va très bien. Sister, elle fait sa meilleure saison historique. Hein, donc, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, Sister, surtout, est dans une phase d'accélération. Mmh. Accélération de son audience, on l'a dit. Accélération de son image. C'est la chaîne qui, d'après les dernières études qui ont été publiées, a le plus progressé en termes de notoriété et d'appréciation du paysage télévision. Et enfin, elle est dans une phase d'accélération de son investissement programme, avec donc des nouveaux programmes, des nouveaux divertissements familiaux et des nouveaux magazines.
On peut d'ailleurs parler peut-être d'une nouveauté, parce que ça a été lancé il y a quelques jours. C'est une quotidienne, c'est à 17h30, ça s'intitule « Les mamans ». Alors, vous suivez le quotidien de 6 jeunes mères de famille, c'est ça ?
Moi, c'est un programme que je trouve absolument fantastique, c'est vraiment un gros coup de cœur. On a repéré ce programme en Scandinavie qui raconte par portrait croisé le quotidien de 6 mamans. C'est un investissement qui est très important pour Sister. Sister, c'est une chaîne plus modeste en termes d'audience encore. D'où la programmation de cette émission depuis 2 semaines. Et je dois dire que les premiers résultats sont extrêmement encourageants puisqu'on fait nettement plus que les moyennes d'audience de la case. Donc nous sommes encouragés en tout cas à continuer l'expérience et puis on verra ensuite la suite qu'on va donner à ce programme.
Alors, vous nous avez dit que Jean-Pascal Lacoste partirait au Panama avec Issa Doumbia, et on a aussi annoncé dans la presse qu'il serait sur Sister la saison prochaine. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ?
Ça, c'est absolument vrai, puisque nous avons produit un nouveau divertissement familial pour la rentrée de Sister. C'est une émission qui s'appelle « Vous avez un colis ?» qui raconte des portraits croisés de familles qui reçoivent des objets dans des boîtes qu'elles ouvrent devant les caméras. C'est un projet qui est extrêmement amusant, qui est bienveillant, qui est très original. Et Jean-Pascal fait partie des familles, en fait, qui participent à ce programme.
Il sera avec sa famille
donc,
dans le programme ?
Ce que je veux dire, c'est que la news, elle est partiellement exacte, puisque si on voudrait être exact, on dirait qu'il participe avec sa famille, avec son épouse, avec ses enfants, dans sa maison de la Côte Basque, à ce programme. Et ça lui donne évidemment une tonalité très amusante.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jérôme Foucré, patron de W9 et évidemment de Sister du groupe M6. Dans un instant sur RTL, le débat des dessous de l'écran. Vers où va le service public de l'audiovisuel ?
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Vincent Parisot.
Quel avenir, quelle décision pour l'audiovisuel public? Les choix annoncés en début de semaine sont-ils les bons? La feuille de route présentée est-elle tenable? On en parle ce soir avec Benjamin Meffre de Pure Média et Cyril Lacarrière du journal L'Opinion.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, a donc présenté lundi dernier ses objectifs. Elle veut notamment accroître l'investissement de France Télé, de Radio France, des autres chaînes et des stations du groupe dans le numérique. Maintenir l'effort de création et surtout renforcer leur attrait auprès des jeunes publics, tout en faisant de grosses économies. Voilà, mais on ne sait pas combien. C'est la feuille de route avec quand même quelques détails. On a appris ainsi, et on en a eu la confirmation lundi, que France 4, la chaîne de la jeunesse, sera uniquement diffusée sur Internet, plus sur la TNT, que sur France 3, le temps d'antenne consacré aux programmes régionaux sera multiplié par 3, il va passer de 2 à 6 heures quotidiennes. Les stations de France 3 et les radios France Bleu vont d'ailleurs devoir proposer des programmes communs. Quant à l'avenir de France au Outre-mer, eh bien son avenir sur le hertzien Outre-mer est, disons aujourd'hui, en cours de réflexion. Alors, messieurs, la décision la plus spectaculaire, je pense quand même qu'on est d'accord, c'est de sortir France 4 de la TNT pour que cette chaîne jeunesse ne soit plus diffusée que sur Internet. Est-ce que c'est la mort annoncée de France 4 ?
C'est une autre manière de le dire, c'est-à-dire les mots employés, les mots choisis sont extrêmement importants. On ne parle pas de suppression, mais de bascule vers le numérique. Factuellement, on supprime bien une chaîne de la TNT. Alors certes, il va y avoir une nouvelle offre sur le numérique, une offre enrichie, avec beaucoup d'animations en particulier, enfin des programmes à l'adresse des plus jeunes, mais il y a bien une chaîne de France Télévisions qui va disparaître. C'est vraiment nouveau ça, en tout cas. C'est un choix radical que fait le gouvernement.
Oui, parce qu'en termes de visibilité, passer du bouquet TNT à Internet, c'est évidemment pas du tout la même chose.
Non, c'est pas du tout la même chose et on peut s'attendre sans doute évidemment à une chute de l'audience. Après, la réflexion du gouvernement, c'est de dire qu'on va aller chercher les jeunes là où ils sont, c'est-à-dire sur le numérique. Donc on va basculer l'animation notamment sur le numérique. Et c'est aussi présenté comme un moyen de faire des économies, sauf que celle-ci devrait sans doute être très réduite parce que ce qu'on va uniquement économiser, c'est le coût de diffusion de France 4, c'est-à-dire une dizaine de millions d'euros. Donc on est loin de l'énorme enveloppe d'économie que veut faire le gouvernement.
C'est quand même au-delà des économies, c'est de l'affichage, c'est extrêmement politique comme choix ce que fait le gouvernement là. Il y a une stratégie d'aller toucher les jeunes là où ils sont, ok, mais on sent bien que le gouvernement avait besoin d'avoir des symboles forts dans cette réforme.
C'est un marqueur finalement.
Absolument.
Aller chercher les jeunes là où ils sont sur Internet, ça veut dire, et le constat a été dressé d'ailleurs de manière assez sévère par Françoise Nyssen, le service public de l'audiovisuel a un problème avec les jeunes, Benjamin Meffre.
Oui, c'est d'ailleurs aussi un constat que faisait Emmanuel Macron il y a quelques mois. Il avait déjà dit que le problème du service public, c'est qu'il ne parlait pas suffisamment aux jeunes et que donc il risquait de les perdre. Et les jeunes sont évidemment les téléspectateurs, enfin en tout cas les utilisateurs de demain pour France Télévisions. Après, on ne peut pas dire non plus que France Télévisions, je trouve, n'ait rien fait en matière de numérique. Après, ce qu'ils ont fait est sans doute trop éclaté, trop fragmenté, notamment en matière de fake news. Il y a plusieurs dispositifs qui existent sur les radios de Radio France, d'autres sur les JT de France Télévisions, de France 2, par exemple, l'œil du 20h. Et donc là, l'idée, ça serait de faire un patchwork de tout ça et de créer une grande plateforme anti-fake news, par exemple. Ça s'appelle Vrai ou Fake. Ça a été lancé là cette semaine. Donc on réunit toutes les énergies de l'audiovisuel public pour lutter contre les fake news.
Et il y a un moyen, vous pensez, Cyril Lacarrière, de redonner de l'appétit aux jeunes pour les programmes du service public qui sont peut-être pas leur premier choix.
Non, mais en fait, les jeunes, globalement, cherchent des contenus de qualité. À France Télévisions, et j'allais dire, mais c'est le cas aussi de tous les médias, de manière générale, qui ont du mal avec le rajeunissement de l'audience, mais à eux de produire des contenus qui vont intéresser les jeunes publics et qui vont ensuite, doucement mais sûrement, les amener vers leurs chaînes, leurs antennes et les contenus, plus ils vont vieillir, d'autres contenus. Mmh. Et effectivement, de le proposer là où ils sont, c'est-à-dire aussi sur les réseaux sociaux, je pense à Facebook, à Instagram, à Snapchat, réussir à trouver des offres comme ça qu'on décline, pas que à la télévision, mais bien sûr d'autres espaces.
Alors, autre axe confirmé par Françoise Nyssen, le rapprochement de France Bleu et de France 3 pour un certain nombre de programmes. Les stations régionales vont proposer des programmes communs. On a une petite idée de ce qui est demandé à la fois à France Bleu et France 3.
Alors pour l'instant, Benjamin. Françoise Nyssen a parlé de deux expérimentations, c'est-à-dire deux matinales communes à France 3 et France Bleu, qui seront lancées a priori à partir de l'automne prochain.
Sauf que ces fiançailles, on va dire un peu imposées, s'avèrent assez compliquées.
Oui, parce que d'un côté, la radio a l'impression de France Bleu a l'impression de remplir sa mission, d'être assez efficace et donc a très peur de se faire manger par la télévision, par l'image. Hein, c'est souvent ce qui est le plus fort. Et côté France 3, on sent en région que c'est bien là que l'effort de guerre, l'effort d'économie va être demandé parce que les régions de France 3 coûtent très cher. Et les productions de France 3 coûtent très cher aujourd'hui et il va y avoir une demande de gain d'efficacité pour ces équipes.
Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que on annonce des mesures d'économie, alors combien de centaines de millions, on ne sait pas, on va y revenir, mais on annonce en tout cas des économies. Et en même temps, on demande au poste quasiment le plus coûteux, qui est celui de France 3 Régions, de multiplier ses programmes régionaux. On sait que ce sont eux qui coûtent cher.
Oui, c'est un des grands paradoxes de la réforme. Il va être difficile de faire des économies sur les régions en leur demandant dans le même temps de faire trois fois plus de programmes. Hein, ça paraît assez évident. Et puis même techniquement, ça va poser des problèmes. Par exemple, le maillage territorial de France 3 et celui de France Bleu n'est pas du tout le même à l'heure actuelle. Le réseau France 3 Régions est basé sur les régions administratives. Il y a à peu près une douzaine de régions France 3. Le réseau France Bleu, c'est un réseau local avec 44 antennes locales qui ne sont pas du tout réparties de la même manière sur le territoire. Donc ça promet des difficultés d'organisation pour produire des programmes en commun.
Je souhaite beaucoup de, beaucoup de courage à la personne qui va être en charge de coordonner tout ça. Parce que, comme dit Benjamin, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Ce ne sont pas les mêmes méthodes de travail et les équipes ne sont pas au même endroit. Enfin, ça s'annonce pas simple, et socialement non plus.
Et puis, d'autant qu'il y a deux patrons différents, un patron à Radio France, un patron à France Télé, et ça, il n'en est pas question. En tout cas, on n'en a pas entendu parler de la question de la gouvernance qui est sous-jacente quand même, non ?
Non, mais parce que là, le gouvernement a tenu à mettre en avant pour cette première séquence, j'allais dire, à son côté, l'ambition de la réforme. Les missions des services publics, redonner du sens, investir, les questions un peu douloureuses. Alors, il y a la gouvernance, il y a la réforme de la redevance, il y a les économies, tout ça, ça va arriver dans d'autres moments.
Donc on attend des décisions pour plus tard. Est-ce que ça veut dire que, finalement, cette feuille de route, c'est pas le Big Bang annoncé?
Non, c'est un point d'étape.
C'est l'acte 1.
Voilà, c'est l'acte 1. Et il va y en avoir d'autres. Il y a une nouvelle mission qui a été lancée, qui devra rendre ses conclusions mi-juillet. Donc, vous voyez, ça va être une nouvelle étape à ce moment-là. Et puis, il y aura d'autres rapports en septembre. La loi n'est prévue que pour la toute fin d'année. Donc, vous voyez, on a encore pas mal de temps pour voir se développer et voir grossir cette loi.
Et puis, le gouvernement fragmente le risque politique aussi. Hein. C'est plus facile d'annoncer petit à petit les choses que annoncer en une fois toutes les réformes, même les plus douloureuses qui vont devoir être faites.
Comme le disait la formule, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la boîte, hein, dans la boîte à images en l'occurrence. Que vont voir de cette réforme les téléspectateurs? Je dis ça parce que Françoise Nyssen est revenue une nouvelle fois sur cette question de la surreprésentation dans l'audiovisuel public de l'homme blanc de plus de 50 ans. C'est quelque chose qui revient régulièrement et qui d'ailleurs fait polémique, Benjamin.
Oui, il ne fait pas bon d'être un mâle blanc de plus de 50 ans dans le service public.
On est sauvés, nous.
Pour quelques années encore. Non, en fait, Françoise Nyssen a adressé un satisfecit à Delphine Ernotte. C'est Delphine Ernotte la première qui avait fait cette réflexion autour de la surreprésentation des hommes de plus de 50 ans sur les antennes de France Télévisions. Et elle avait exprimé son désir d'ouvrir l'antenne à plus de femmes, à plus de gens issus de la diversité. Et Françoise Nyssen, lors de la présentation de sa réforme, a doublé cette réflexion de Delphine Ernotte en promettant qu'elle allait également pousser dans ce même sens d'une ouverture de l'antenne à des personnes différentes des hommes blancs de plus de 50 ans.
C'est étrange que Françoise Nyssen ait comme ça justement suivi le sillon creusé par Delphine Ernotte parce que Delphine Ernotte se traîne un peu cette déclaration comme un fardeau depuis le début de sa présidence. Et donc remettre ça sur le tapis là, maintenant, comme ça, est-ce que c'était une bonne idée politiquement? Pas sûr.
Alors qu'il est moins d'une semaine après l'annonce de cette feuille de route, quelles sont les réactions? Quel accueil des syndicats? Quel accueil des politiques dans la majorité? C'est un peu frisquet quand même. On sent pas un enthousiasme généralisé.
Hein. Oui, mais ça c'est parce que tout est parti, vous vous souvenez, de cette déclaration prêtée à Emmanuel Macron sur la honte de la République. Du coup, on attendait, effectivement, pour cette réforme, vous l'avez dit tout à l'heure, Vincent, un Big Bang de l'audiovisuel. Or, ce n'est, on l'a dit, qu'un point d'étape. Et il faudra regarder tout ça à la fin, voir comment ça va se jouer. Après, sur les syndicats, eux ne sont pas dupes. Ils savent très bien que là, on est sur un peu une câlinothérapie. Le dur va arriver avec la question des grandes économies demandées à l'ensemble des entreprises de l'audiovisuel public.
Combien ? Parce que ça, finalement, c'est la question. C'est la question à 300, à 400 millions, je ne sais pas. En tout cas, c'est la question que tout le monde se pose. Combien l'audiovisuel public va devoir faire d'économies ?
La communication de Françoise Nyssen cette semaine a été un peu surprenante parce que lundi, elle a donc refusé d'évoquer la question des économies, la renvoyant à plus tard. Et puis, interviewée dans des médias le lendemain, elle a fini par admettre qu'on devrait se situer autour de 300 millions d'euros, sans que ce soit 300 millions d'euros, mais autour de cette somme-là. Donc, a priori, d'ici 2022, le service public dans son ensemble, hein, pas que France Télévisions, mais aussi Radio France et d'autres entreprises publiques, devront faire aux alentours de 300 millions d'euros d'économies.
Effort acceptable.
Les entreprises vous diront certainement que ça va être très compliqué, qu'elles sont à l'os, mais je pense qu'il n'y aura pas de négociation. Ça va se passer comme ça.
Ça va tomber comme un coup près.
Et la question est aussi de savoir si ces économies reposeront sur des réformes de la façon de travailler du service public ou si elles vont pénaliser la création. C'est un des risques qui est en jeu, même si Françoise Nyssen proclame que la création sera protégée, sanctuarisée. On peut se poser la question si dans les années à venir, plutôt que de créer une crise sociale, les patrons de ces entreprises publiques ne vont pas essayer en douce de réduire un peu la facture de la création, ce qui est moins douloureux en interne.
Cyril Lacarrière du journal L'Opinion, Benjamin Meves de Pure Média. Merci.
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 Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.